nous sommes trois professionnels virtuels et en isolation en éducation.
Jennifer Mansell-Davies,
Mylène Brassard
et Vicky Fauteux sommes toutes chez nous, derrière nos écrans, dans cette nouvelle réalité sans précédent.
Dans cette série en confinement, nous parlerons de sujets tels que le lien affectif, la planification, l'évaluation et bien plus encore.
Et cette fois-ci, dans le contexte de l'enseignement à distance.
Allô!
Allô!
Alors, je vais essayer de commencer notre conversation sans utiliser les mots qui se répètent trop souvent dernièrement, mais il faut que je mentionne qu'on commence à enseigner dans un nouveau contexte.
C'est une nouvelle réalité pour tout le monde.
Ça, c'est le mot que je cherchais à éviter parce que ma sœur m'a dit que la prochaine fois que quelqu'un lui dit « new normal » en anglais, elle allait faire quelque chose de méchant.
La nouvelle normalité.
C'est ça. Alors, dans la nouvelle normalité, on parle aussi de continuité pédagogique. Il y a certaines choses que nous, on préconise comme conseil, comme enseignante, comme éducatrice. Et une des choses, c'est qui est super important, qui est facile à faire lorsqu'on voit nos petits ou nos plus grands à tous les jours, c'est de continuer à les aimer puis avoir un lien affectif avec chacun de nos élèves.
Et ça, je pense que c'est la priorité numéro un dans ce qui se passe en ce moment. Les élèves qui sont des enfants sont à la maison depuis maintenant 4 semaines. Ils n'ont pas sorti ou très peu. Il y a des contacts seulement avec la famille proche. Alors, on est très loin de ce qu'on connaissait avant. Alors maintenant, je pense que la priorité, ce qui devrait être au top de notre liste, c'est de prendre contact avec les élèves pour réétablir, parce qu'on l'avait fait en début d'année, là, mais de réétablir le lien affectif avec nos élèves.
Puis je dis tout le temps que durant les dernières semaines, lorsqu'on a des conversations avec les enseignants, souvent je leur dis que si les deux prochaines semaines, mais il y a une semaine, je disais ça, que pour les deux prochaines semaines, on est au mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a de plus, par contre, c'est qu'on les a déjà vus depuis le mois de septembre, mais là, présentement, on est comme si on était au mois de septembre. Il faut vraiment, comme on dit tout le temps, de bien mettre la table, que toutes les conditions sont là pour que, pour autant de temps ou pour aussi peu de temps qu'on va rester à la maison, d'être capable d'avoir un enseignement, d'avoir une continuité d'enseignement.
Oui, puis je trouve que c'est super important, surtout en ce temps-ci, parce qu'on les connaît, nos élèves. On sait de quoi ils sont capables dans le milieu, qui est un milieu contrôlé, qui est l'école. Mais là, à la maison, ils sont plus l'élève qu'on connaissait. Ils sont des enfants dans leur milieu, dans leur maison, avec le bébé frère, la maman qui télétravaille. Alors, de reprendre contact avec les élèves et de revoir qui sont ces enfants dans ce moment précis.
Puis, comme on dit en début d'année aussi, c'est pas le temps de commencer à parler du curriculum. Les premières semaines, c'est vraiment pas nécessaire. Puis on veut pas ajouter au stress ni des enfants ni des parents. Puis lorsqu'on stresse les parents, on stresse les enfants aussi.
Oui.
Alors tout ce qu'on propose aux élèves, il faut que ce soit quelque chose de sans stress.
Ouais. Mais en fait, lorsqu'on stresse les enfants, on stresse les parents. Puis, au tour de rôle, on va se stresser aussi. Alors, on ne veut pas faire ça parce que, en autant que nous autres, on a aussi notre vie à la maison, mais en même temps, les enfants, souvent, ils ne voient pas beaucoup d'autres personnes. Peut-être que ça, toi, comme étant enseignante, c'est vraiment la continuité, puis une belle routine, puis un visuel qui est vraiment rassurant pour eux autres.
Oui, exactement. Alors, on a parlé du fait que c'est pas nécessairement la même réalité qu'en salle de classe. Il y a des affaires qu'on voit et que nous, on a fait lorsqu'on était en salle de classe, qui établit et qui maintient ce lien à tous les jours. Alors, l'accueil le matin, est-ce que j'ai l'air content de les voir? Je les salue par nom, je leur offre un câlin, un high five, quoi que ce soit. Je peux pas faire ça comme enseignante à distance. Qu'est-ce que je fais pour maintenir ou rétablir ce lien affectif?
Bien, je dirais que d'interpeller les élèves par leur nom, là, en ce moment, c'est encore plus nécessaire ou encore plus essentiel parce que si je dis « bonjour les amis » puis que j'ai 20 poulets qui font « oui, mais ça devient chaotique », alors d'interpeller les élèves un à un avec leur nom, les bonjours, ça, c'est encore tout ça, c'est valable. C'est complètement valable. Puis la seule différence, c'est que là, sachant que le temps qu'on est en ligne, alors moi, pour les élèves, ben, pour les enseignants que j'accompagne, c'est 5 heures par semaine à raison de 30 minutes en ligne, en live, et 30 minutes par jour d'apprentissage à la maison. Mais pendant ce temps-là, on se concentre sur les apprentissages essentiels. Mais rien n'empêche que parce que les élèves ont besoin de s'en parler. Ils ont besoin de se raconter leur vie. Ils ont besoin de se raconter, « Regarde, ça, c'est ma maison. Ça, c'est mon chien. Ça, c'est mon frère. » Alors, c'est important, à mon avis, d'offrir une plage horaire ailleurs dans la journée pour permettre aux enfants de vivre ce lien-là. Sachant qu'ils ont très peu de communication à l'extérieur de la maison, peut-être grand-maman, si elle est capable d'utiliser leur iPad ou peu importe, les communications, c'est, les échanges se font rares. Alors, de pouvoir échanger avec ami I, ami E de la classe, c'est absolument essentiel à mon
avis. Oui, puis je pense que ce que Mylène avait dit à propos d'une autre plage horaire, puis parler aux élèves, peut-être en petit groupe, peut-être en individuel, dépendant du profil de classe, puis peut-être que vous savez qu'il y a des élèves qui aimeraient se voir. Et en ce moment, sur Teams, qui est la plateforme que nous, on utilise au conseil, on ne voit que les 4 dernières personnes qui ont parlé sur l'écran. Et à mon avis, il est super important que les élèves se voient. Et je sais que dans certaines écoles, ils ont décidé de ne pas allumer ou utiliser les caméras des élèves. Si c'était ma classe, si c'était mon école, moi, j'encouragerais les gens à ajouter la caméra parce que ça fait partie de la normalité pour les élèves de se voir. Alors, si tu ne peux pas faire ça pendant ta classe, ben fais ça. Si tu sais qu'il y a certains élèves qui n'ont pas le droit de mettre leur caméra, parle-leur individuellement, mais peut-être avec d'autres petits groupes, leur permettre d'utiliser la caméra pour qu'ils puissent se voir.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Oui, puis sachant, bon, tout dépendant de l'âge de l'élève, mais pour les plus petits, sachant que maman et papa sont généralement derrière pour activer le micro, si maman et papa décident d'activer la caméra, tu le sais que le consentement, comme que le parent est d'accord.
OK, une question. On a des élèves qui, peut-être en salle de classe, sont pas timides, ils interviennent souvent, mais pour une raison ou une autre, ils sont pas encore à l'aise de s'exprimer à l'ordinateur via la classe virtuelle. Est-ce qu'il y aurait un moyen de continuer la relation éducative avec ses élèves sans qu'ils se sentent gênés?
Bien, vite comme ça, je pense que l'idée d'aller prendre le pouls des élèves, de donner accès rapidement à tous à un simple questionnaire, par exemple, ça pourrait être une façon de voir, sans avoir à parler ou à interagir sur le site, tu peux aller chercher le pouls de tout le monde.
Oui. Juste comme exemple, dans notre équipe, on a quelques formulaires dans notre plateforme qui est Forms, Microsoft Forms, qu'on a déjà créé. On a aussi trouvé d'autres formulaires qui sont dans Google, puis ça va nous faire plaisir de les partager sur notre page Facebook. Puis c'est vraiment des questions très simples pour les élèves qu'eux autres, ils peuvent juste faire sélectionner des réponses. Comment tu te sens aujourd'hui? Pourquoi est-ce que tu te sens comme ça? Qu'est-ce que moi, je peux faire pour essayer d'améliorer la situation, en guillemets, un petit peu. Évidemment, pas dans ces exacts mots-là, mais c'est dans ces idées-là. Évidemment, pour les plus grands, il va y avoir des descriptifs en mots, mais pour les plus jeunes, là, on pourrait mettre seulement, tout simplement, des emojis ou des icônes.
Je pense que c'est une excellente suggestion. C'est privé. Il n'y a personne qui va voir les réponses autres que l'enseignante. Et ça me fait penser parce que, évidemment, si tu vas recevoir cette information, il faut que tu fasses quelque chose avec.
Ouais.
Si un élève te dit « ça va mal parce que je ne sais pas trop quoi », il faut que tu trouves un moyen de communiquer avec eux pour, tu sais, leur en parler ou poser plus de questions. Parce que les élèves veulent être vus comme en salle de classe. Ils veulent être écoutés puis vus. Alors, s'ils disent quelque chose, il faut y répondre. Puis, ça me fait penser à une autre idée que j'avais pris en note qui serait une tâche authentique, facile à faire, qui ne prend aucun matériel, c'est le journal de bord. Puis quel meilleur moment dans la vie de commencer un journal ou de continuer un journal de bord que pendant cette nouvelle réalité, parce que c'est intéressant, ça va être intéressant pour les enfants de garder des traces, mais je pense aussi aux enseignants qui lisent les entrées de journal de bord et qui répondent avec quelques petites phrases, une petite rétroaction. Vous allez avoir des preuves d'écriture, vous allez avoir les idées de vos élèves et vous allez avoir la chance d'échanger aussi.
Absolument.
Super, une super bonne idée. Juste avant d'aller plus loin, là, toute la classe prend une nouvelle initiative, un nouveau tournant technologique. Alors, tout à l'heure, Vicky a parlé de Microsoft Form. Alors là, on veut vous dire que maintenant, il y aura toute la classe recommande. Alors, si vous allez sur le site que vous n'avez jamais entendu parler avant, qui s'appelle YouTube, dans la chaîne de Aide Pédago, on va créer des tutoriels pour voir comment est-ce qu'on peut utiliser Microsoft Form dans la salle de classe, comme Vicky et Jen viennent de le proposer. Alors, toute la classe recommande! C'est tout nouveau, c'est super excitant. Et c'est notre façon aussi à nous de prendre
un virage
d'enseignement virtuel.
Je pense que jusqu'à maintenant, les deux prochaines semaines, ça va être vraiment le temps qu'on va vraiment mettre pour se familiariser avec les outils. Et tout ça, ça va venir à vous appuyer tous les enseignants dans leur aventure un petit peu.
Oui, puis de le rendre interactif, parce que c'est ça qu'on parle vraiment, c'est donner une voix aux élèves, leur permettre de s'exprimer.
Ouais.
Puis je voulais mentionner aussi une autre idée pour les élèves qui sont un peu plus gênés avant de passer à la prochaine question, c'est de les préparer à l'avance. Leur dire, demain matin, je vais vous poser cette question. Alors, les élèves peuvent se préparer puis penser à ce qu'ils veulent dire avant de le faire. Quand j'enseignais en quatrième année, j'avais un élève qui lisait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bonjour, Kijan. Parfois, il m'écoute. Il nous écoute. Il lisait beaucoup, mais quand il lisait à voix haute, je ne sais pas s'il s'en rappelle, mais sa fluidité, il lisait de façon assez saccadée. Alors, avant d'avoir une lecture à voix haute, je lui disais, demain, j'aimerais que tu lises le premier paragraphe à voix haute. Ce soir, tu peux te préparer. Puis comme ça, alors c'est pas nécessairement toute la classe qui va être préparée à l'avance, mais au moins les élèves qu'on sait que c'est difficile pour eux de prendre la parole, on peut les préparer.
J'adore.
Oui, puis de cette façon-là, c'est individualisé. Puis en même temps, c'est notre façon de différencier un petit peu notre approche selon l'élève qu'on a, parce que évidemment, on a une classe, mais chaque élève est différent. Alors, la façon comment est-ce qu'on va communiquer avec eux autres en personne sera différente pour chacun. Et surtout maintenant, en enseignement à distance, ça va être aussi différent. Alors, les préparer, de leur parler d'avance. Et si je peux me permettre, juste dire un exemple, il y a des vidéos YouTube que j'ai vues, des anciens qui ont préparé en disant « Oh, vous me manquez beaucoup, j'aimerais ça, puis ça va être ouvert, puis si tu peux le faire aussi ludique, c'est vraiment intéressant pour les élèves. » Alors, ça les engage, mais pas nécessairement leur demander toujours d'avoir une réponse ou une interaction.
En parlant de ces vidéos-là, il y en avait, comme ça a été très, très, très populaire en ligne sur les médias sociaux, où les écoles se mobilisaient pour parler avec leurs élèves. Et la première journée, parce que nous, on est entrés en ligne en apprentissage virtuel le 6 avril. Alors, c'est venu à mes oreilles, il y avait une enseignante, elle a commencé sa rencontre en chantant bonne fête à tous ses élèves. Tous les élèves que leur fête avait été comme passée sous silence, dû au confinement. Elle s'est arrêtée pour leur souhaiter un joyeux anniversaire. Alors, je trouvais ça super émouvant de savoir que, c'est pour l'enfant, de penser, « Hey, madame a pensé à moi, même si j'étais pas... » Tu sais, c'est pas rien, là. Alors, elle a su, comme... Bon, c'est rien, chanter bonne fête à ses élèves. On fait ça sans y penser tout le temps. Mais dans ce cas-ci, de savoir que madame m'a pas oubliée, puis que je suis important pour elle, c'est une façon vraiment solide que justement d'aller travailler ce lien affectif-là avec les élèves.
Ce qui nous mène à la prochaine question. Oh. Les élèves, on veut s'assurer de ne pas oublier personne. Alors, on avait parlé de nos élèves qui veulent peut-être nous parler d'une autre manière, par courriel, dans un appel individuel, qui doivent se préparer à l'avance, qui peuvent répondre à des sondages au lieu de répondre à de vive voix. Mais qu'est-ce qu'on fait pour nos élèves qui vivent une réalité complètement différente que la majorité de la classe? Je pense à des élèves qui ont des parents qui sont des travailleurs essentiels, qui vivent beaucoup de stress parce que maman ou papa arrivent de l'hôpital le soir ou de la clinique médicale, puis tu sais, s'inquiètent de partager le virus avec eux, ou des élèves qui vivent en pauvreté, qui ont peut-être des parents qui travaillent la nuit dans un...
Qui ont perdu leur travail.
Ou qui doivent partager l'appareil avec 5 frères et sœurs et qui n'assistent peut-être pas à la classe virtuelle à tous les jours ou peut-être jamais. Qu'est-ce qu'on fait pour eux?
Et je pense que le mot-clé, sachant qu'on ne peut plus enseigner comme on l'a toujours fait, parce qu'avec ces élèves-là, je dirais les élèves qui étaient en pauvreté maintenant étaient probablement des élèves susceptibles avant. Alors, à ce moment-là, on les accueillait, on les prenait où ils étaient, puis on essayait de les amener plus loin. Alors, dans ce cas-ci, à mon avis, le mot-clé, ça va être flexibilité. De prendre l'enfant quand il est disponible, de prendre l'enfant là où il est, puis d'aller plus loin. Mm-hmm. Mais l'idée, c'est que s'il ne se branche pas sur la plateforme ou s'il ne fait pas ses devoirs ou quoi que ce soit, qu'est-ce que moi, je vais faire? Alors, rien n'empêche que, avec cet élève-là, je fasse des rencontres individuelles pour faire les devoirs avec lui, pour faire l'enseignement comme un à un avec lui. Comme il y a différentes possibilités. Puis, il faut garder en tête que les propositions du plan de continuité d'apprentissage qui ont été proposées par le ministère, c'est un minimum. Puis, c'est pas vrai qu'en 5 heures par semaine, je peux aller toucher tous mes élèves de la même façon que je le faisais avant. Alors, il va falloir justement que je fasse preuve de flexibilité.
Je pense que tu as raison. Puis si on parle de façon plus pratique, ça veut dire peut-être qu'il faut les appeler avec un téléphone, oui, avec des touches. Parfois, même ça ne fonctionne pas. Peut-être qu'ils ont un téléphone, puis c'est un téléphone mobile, puis c'est au travail avec maman ou papa. Puis, Mylène, toi, tu avais mentionné quelque chose, je pense que c'était toi, qui avait mentionné quelque chose de comme à l'ancien qu'on pourrait quand même faire. C'était Vicky?
Oui, en fait, j'ai vu cet exemple-là en ligne. Évidemment, j'espère que dans notre cas, c'est pas applicable, mais on peut même envoyer une lettre parce que les services de poste sont encore un service essentiel. Ça va prendre des jours, mais si on veut aller vraiment reculer vraiment en arrière, pour les élèves qui ne peuvent pas se connecter, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas les appeler ou ouais. Si on a exaucé toutes les méthodes, mais c'est le temps peut-être d'écrire un petit mot juste si vous êtes confortable. Mais moi, comme étant adulte, moi, j'adore ça, recevoir des lettres. Alors, imagine un enfant qui n'a pas vu son enseignante depuis 3-4 semaines. Un petit mot, une petite note, là, ça devrait faire leur journée, là, oui, vraiment.
Si l'important, comme Mylène l'avait dit, c'est que l'enfant sache que madame ou monsieur a pensé à moi, ça va faire l'affaire.
Exactement.
Oui, puis il ne faut pas oublier aussi des fois que ce n'est pas une question de mauvaise volonté. Souvent, si l'enfant ne se connecte pas ou si le parent est débordé, ce n'est pas parce qu'ils veulent te faire du trouble, OK? Mm. Ce n'est pas parce qu'ils veulent te nuire ou veulent nuire à l'enfant. Alors, des fois, c'est une des enseignantes avec qui j'ai travaillé dans les dernières semaines qui me dit ça, pour faciliter, pour alléger, pour rendre tout le monde confortable, elle a ajouté 1 heure de rencontre dans sa plage horaire où c'est seulement pour le parent. Oh. Alors, c'est le parent qui se branche, qui va poser des questions, où je clique pour telle affaire, le devoir, Si j'ai pas le temps de me mettre en ligne à telle heure, comment je fais pour avoir la rencontre préalable? Comment est-ce que je peux aider mon enfant? Et là, c'est des questions où, parce qu'on s'entend là, que le parent va toujours rester le premier enseignant de son enfant. C'est lui qui le connaît le mieux, c'est lui qui le connaît le plus. Alors, de savoir qu'est-ce que lui, directement, peut faire. Puis des fois, là, comme juste estimer le nombre de Cheerios dans notre bol pour déjeuner. Là. Ça n'a pas besoin d'être des tâches qui sont ultra complexes. L'idée, c'est de voir, surtout en ce temps-ci, à la maison, où sont les mathématiques, à la maison, où est la littératie. Alors, d'ouvrir cette plage horaire-là, à mon avis, rend le parent confortable. Et quand le parent, comme on parlait tout à l'heure, quand le parent est confortable, l'enfant est confortable, puis ça fait, ça crée une le trio famille-maison.
Oui.
Famille-maison-école, je m'excuse.
Mais en fait, juste pour faire un petit peu le pont que qu'est-ce que Mylène a dit, si je voulais toujours comme séparer les deux, comme en disant que quand je rencontre les élèves, les plateformes qu'on utilise, c'est vraiment destiné pour les élèves et c'est pas destiné pour les parents. Puis juste en t'écoutant à dire ça, je pense que c'est pas qu'on peut pas engager les parents. Mais en fait, il faut vraiment davantage engager les parents, mais c'est de vraiment comment le faire puis comment de créer des plages horaires différentes pour qu'il y ait un temps dédié pour les élèves et un temps dédié pour les parents si on veut les parler un à un.
Oui, puis c'est pas engager les parents juste pour l'aide aux devoirs, là.
Non.
C'est
vraiment comme tout qui vient là-dedans. Là. Encore une autre fois, un mot que j'aime pas trop, c'est une façon holistique, là. Comme si comment faire tout.
Comment est-ce qu'on peut le fait de façon organique?
On peut le faire de façon organique et holistique aussi, en effet.
Mais, j'ai un ami, Frédéric, qui travaille dans une école élémentaire, qui m'a déjà dit que c'est une des choses qu'il a remarqué depuis le début de cet enseignement à distance, c'est que l'implication des parents puis l'idée d'avoir un partenariat, comme même si on le... j'allais dire même si on ne le voulait pas, mais pourquoi on ne le voudrait pas? Mais veut pas, la nouvelle situation fait en sorte que les familles sont impliquées. Je voulais aussi parler un peu, Mylène, tu avais parlé de « c'est pas par mauvaise volonté ». Et moi, j'aimerais ajouter que chez les enfants, la mauvaise volonté n'existe pas. Si tu as un élève qui ne participe pas, c'est soit quelque chose qui est hors de son contrôle, soit que c'est un élève en difficulté pour qui les tâches qui ont été proposées il ou elle a peur de l'échec. Alors, je dirais pour des élèves qu'on connaît qu'en salle de classe, ils avaient beaucoup de difficultés. Puis, disons que vous aviez proposé aux élèves quelque chose que vous pensez être sans stress. Choisissez un livre, que ce soit à la maison, que ce soit un livre sur Epic, sur le site de votre bibliothèque, sur Tumble Book, quoi que ce soit. Lisez un livre, puis écrivez-moi une petite appréciation du livre. Mais il y a un élève qui ne l'a pas fait. Mais pense à cet élève-là. Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qui pourrait l'intéresser si ce n'est pas un livre? Peut-être que je pourrais aller chercher un livre audio qui lui plairait. Peut-être que je peux aller chercher une vidéo sur Squat TV ou autre et lui envoyer la vidéo qu'il écoute ou qu'il écoute un livre puis qu'il fasse un enregistrement pour m'en parler ou qu'il m'appelle pour m'en parler. Alors, si vous pensez qu'un élève ne participe pas, pensez aussi à pourquoi.
Juste pour dire que, comme si en salle de classe, on les connaissait déjà, mais là, en enseignement à distance, l'élève reste l'élève. Mais sauf qu'on vient d'ajouter une autre dimension que peut-être que tu ne reconnaîtrais pas tes élèves à ce moment-là, mais avec un petit peu de travail, on va s'en sortir puis on va les connaître dans un nouveau contexte.
Oui. J'aime aussi la distinction que tu as faite l'autre jour lorsqu'on se parlait, Mylène, entre un mot qui a peut-être connotation un peu négative ou quelque chose qui est ardu, qui est les devoirs. Toi, tu avais un autre terme.
Apprentissage à la maison. Pour moi, c'est très, très, très différent. Devoir, c'est quelque chose que je dois faire, que je dois remettre. Apprentissage à la maison, c'est j'apprends dans un autre contexte. Mm-hmm. Pour moi, c'est très, très, très différent.
Ouais. Puis je pense que comme prof, il faut qu'on y pense parce que nous avons eu beaucoup de questions techniques dans les semaines où on préparait les enseignants à l'enseignement à distance. Puis beaucoup de questions, c'était comment est-ce que j'envoie une fiche d'exercice qui est un PDF pour que les élèves le terminent et me le renvoient.
Oh.
Ben, OK. Alors, il y a une façon de le faire, peut-être. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut faire pour commencer? Est-ce qu'on veut envoyer des fiches pour les tenir occupés ou est-ce qu'on veut proposer des affaires pertinentes en lien avec ceux qui vivent en ce moment qui vont être plus agréable et moins stressant à faire.
Et garder en tête l'idée du lien affectif. Si on veut construire ce lien affectif-là, de faire l'enfant pleurer pendant 2 heures sur une fiche,
c'est de conjugaison.
Ouais. Garder en tête aussi, ça c'est une autre chose qui m'a été partagée des bons coups de ce qui se passe dans notre conseil. J'ai travaillé avec une équipe qui ont mis en place leur conseil d'élèves qui, en temps normal, se rencontraient une fois par mois. Et là, ont décidé de poursuivre leur conseil d'élèves en ligne avec l'aide de l'éducatrice spécialisée de l'école et une éducatrice de la petite enfance qui s'occupe de ça. Et ils vont mettre en place les journées thématiques. Alors, une fois par mois, ou peu importe le nombre de fois ou la fréquence, ou peu importe, les cheveux fous, les vêtements sportifs, où on a encore cette union-là d'école ou de classe, ce sentiment d'appartenance, mais différent, parce qu'on ne peut plus faire comme on a toujours fait. Il faut sortir de la boîte.
Si alors, on veut créer le club de tricot, tu sais, à la maison, ben, peut-être qu'on n'a pas le matériel, mais comme exemple, tout ce qui est comme parascolaire ou club social ou quoi que ce soit, super bonne idée.
Non, c'est super, super. Gardez, parce que là, avant de se quitter, gardez en tête aussi que là, on parle beaucoup de l'élève, de la famille, du parent. Gardez en tête que le lien affectif est aussi important pour l'enseignant. Comment est-ce que vous faites pour aller créer des liens? Oui, vous le faites avec vos élèves, mais en dehors de ça, entre vous, enseignants, est-ce que vous êtes capable de partager ce que vous êtes en train de faire, de partager vos bons coups? Ça aussi, c'est important. Parce que de se sentir valorisé, parce que là, ben là, je veux dire, à l'école, je ferme ma porte, je deviens tout seul. Ici, je n'ai même pas besoin d'avoir ma porte fermée que je suis toute seule. On vit beaucoup d'isolement dû à la situation, mais gardez en tête que le travail d'équipe n'est pas impossible, même en...
Et nous faisons partie de votre équipe. Oui! Parce qu'on a plein de sujets à vous proposer sur la continuité pédagogique. On va continuer à partager avec vous sur notre page Facebook et sur Twitter aussi. On accepte les bons coups, les coups de cœur des autres et on les partage avec le monde. Et Vicky, le prochain épisode va être à quel sujet?
On va parler de Stammer. On avait déjà eu un épisode l'année passée sur le modèle Stammer qu'on avait vraiment bien décortiqué dans un contexte de salle de classe. Mais là, on va essayer de transposer ça dans un contexte d'apprentissage à distance. Puis comment est-ce que on peut vraiment sortir un petit peu de l'ordinaire? Déjà là, on demande énormément de nos enseignants. On leur a déjà fourni une nouvelle plateforme, mais comme les élèves, on est toujours en différents niveaux. Alors, pour ceux qui sont confortables de le faire, on va vous montrer comment, on va en discuter, puis on va vous montrer comment essayer de faire des redéfinitions pour que l'apprentissage à distance soit aussi enrichissant que dans la salle.
Ça m'allume au bout. Oui.
Je pense qu'on s'est déjà dit que vous ne pouvez pas juste transposer ce que vous faites en salle de classe dans cette nouvelle réalité. Il va falloir le faire différemment. Et c'est pour ça qu'on veut vous aider à rendre ça interactif. Et on veut continuer à vous appuyer aussi avec les tutoriels qu'on va créer parce qu'on va vous proposer des outils pour rendre les cours virtuels plus intéressant, plus interactif, et on aimerait que ce soit facile à intégrer aussi.
Puis encore une autre fois, je vais juste faire un commentaire. Tout ce qu'on parle, tout ce qu'on propose, on a toujours les têtes pleines d'idées. N'oubliez pas, pour les enseignants qui sont à la maison, qui font l'enseignement à distance, c'est de toujours voir quelle est ta zone de confort, qu'est-ce que tu peux faire, mais c'est toujours de se donner des défis puis de sortir de sa zone de confort une fois de temps en temps et vous allez vous épater avec les résultats que vous allez avoir.
Comme nous! On s'enregistre à distance pour la première fois?
Pour la première fois, mais on se parle souvent déjà à distance. Ouais. Et n'oublie pas d'aller voir notre YouTube pour toute la classe. Recommande!
OK. Merci, les filles.
Merci.
À la prochaine.
À la prochaine, tout le monde. Merci d'avoir écouté cette émission. Vos animatrices sont...
Jennifer Mansell-Davies,
Mylène Brassard
et Vicky Fauteux.
Nous aimerions remercier les directrices des services pédagogiques au Conseil scolaire Viamonde. Les illustrations ont été créées par Francis Fauteux et le logo a été créé par Mylène Brassard.
La musique est de Ralph Grant et elle a été enregistrée au studio de production Guérin.
Suivez-nous sur Twitter à Tout pour et sur Facebook sur notre page Pour toute la classe. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre courriel Gmail à pourtoutelaclasse.gmail.ca.